Les orages maléfiques, chapitre 18. L'ambulance roulait sur le boulevard périphérique à toute allure. Le conducteur usait de la sirène et du gyrophare. Il ne voyait pas la route. Il regardait deux êtres immobilisés dans des brancards avec des tuyaux et des perfusions. Les couvertures se soulevaient régulièrement, prouvant qu'il y avait de la vie au bout de cet attirail. Malgré la vitesse et la dextérité du chauffeur, ils trouvèrent le trajet interminable. Ils n'échangèrent pas un mot. Ils fixaient intensément la doctoresse qui vérifiait en permanence le bon déroulement du rapatriement vers l'hôpital. Le véhicule se présenta enfin devant la barrière d'un établissement hospitalier. Ils se tenaient la main en rivant leurs regards vers les lits de fortune qui abritaient deux marionnettes démantibulées, la chair de leur chair. Ici, comme à l'aéroport, les formalités furent réduites. L'admission des accidentés ne prit que quelques secondes. Une équipe médicale prit le relais des membres d'assistance-service. Maintenant, il s'agissait de constater et de réparer les dégâts. Les chariots transportant la belle-fille et le fils aîné s'engouffrèrent dans un couloir, tandis qu'une assistante prenait en charge les parents et les dirigeait vers un salon. Elle précisa que l'attente risquait de durer longtemps. Ils se serrèrent encore plus fort les mains et acquiescèrent d'un signe de tête. Hagards, ils attendaient. Le temps s'écoulait, indifférent à leur peine. Dans le silence de la pièce blanchâtre, une pendule égrenait sa litanie d'un tic-tac triste. Un antique néon clignotait bruyamment avant d'éteindre définitivement sa lumière. Il ne disait rien. Le destin était maître de demain. Alors, à quoi bon se parler? La partie se jouait en salle d'opération. Il patientait, le cœur plein de crainte et d'espoir, comptant sur la jeunesse des enfants pour en limiter les séquelles. Un chirurgien les rejoignit 4 heures après leur arrivée. Ils allaient enfin connaître l'état exact des blessés. Le praticien accomplit de nombreuses circonvolutions avant de venir à l'essentiel. Bizarrement, il commença par aborder le cas du jeune homme. Il détailla chaque fracture et ils retinrent qu'il risquait de claudiquer. Le constat définitif ne pouvant se faire qu'à l'issue de la période de rééducation. Il pourrait le rejoindre dans un moment lorsqu'il quitterait la salle de réveil. Il leur parla ensuite de Rindra en commençant par déclarer qu'elle avait été victime d'une hémorragie en salle d'opération. Il testa du coin de l'œil leur réaction. Enfin, il rajouta qu'elle venait de perdre l'enfant qu'elle portait. Elle se trouvait actuellement hors de danger. Le fœtus, de sexe masculin, était âgé d'environ 3 mois. Cette révélation leur fit l'effet d'un coup de poing reçu en pleine figure. Ils ne comprenaient pas le secret observé par leur fils et leur belle-fille. Ils étaient chaos. Ils remercièrent le praticien. Ce dernier discuta quelques instants et s'en retourna dans le bloc interdit aux visiteurs. Ils échafaudèrent 1000 hypothèses sur les affirmations du médecin. Ils se demandèrent si leur fils connaissait l'état de son épouse ou si elle lui avait dissimulé sa condition. Elle était mince et pouvait avoir caché sans peine ses premières rondeurs. Mais cela supposait bien d'autres cachotteries. Ils se perdaient en conjoncture, chaque théorie trouvant son pendant pour être réfutée. Ils gambergeaient silencieusement, mais leur gymnastique intellectuelle se rejoignait. Quelque chose clochait dans cette affaire. Quelle raison pouvait pousser une jeune femme à cacher sa première grossesse à son mari? Ce mystère accaparait leur esprit lorsqu'une infirmière vint les chercher. Les malades avaient rejoint leur chambre commune. Sous l'effet des analgésiques, ils essayaient de voir le monde qui les entourait. Rindra ouvrait les yeux et fixait le plafond. Ses premières paroles furent pour réclamer à boire. L'infirmière humecta ses lèvres avec une compresse, mais ne lui donna pas de liquide à absorber. Le fils réagissait calmement. Il tenta d'identifier les lieux, mais ses paupières lourdes se refermaient. Il lutta quelques secondes et sembla s'endormir à nouveau. Le temps s'écoula ainsi pendant plusieurs heures. Cependant, les blessés recouvraient de plus en plus de lucidité et d'attention. Ce fut Rindra qui la première reconnut ses beaux-parents. Elle les gratifia d'un sourire. Ils firent de même. Elle demanda où était son bébé. Un silence pesant fit suite à cette question. Il ne savait quoi lui répondre. L'aîné se réveilla et demanda lui aussi son bébé. Ils se regardèrent et lui répondirent qu'elle était à côté de lui. Immobilisé dans son lit, il n'arrivait pas à voir sa compagne. Il l'appela « mon bébé ». Elle lui répondit « comment vas-tu mon bébé ?»« Bien mon bébé, je t'aime ». Il venait de se rendre compte que le couple utilisait ce mot affectueux pour se désigner mutuellement. Ça n'avait rien à voir avec la fausse couche. Ils se doutaient que le sujet serait rapidement mis sur le tapis, et ils auraient aimé que le médecin en discute avec Rindra avant qu'il n'échange des propos sur la perte de cet enfant. Ils restèrent encore un moment avec eux. La fatigue et les sédatifs rendormirent les malades, et l'infirmière leur conseilla de les laisser, ils avaient besoin de repos. Ils trouvèrent une chambre dans un hôtel proche de l'hôpital. La nuit leur parut interminable. Ils reconstituèrent le film de la journée écoulée, heureux de constater que les enfants s'en sortiraient, mais en proie à mille interrogations sur les déclarations du chirurgien. Le lendemain, ils rejoignirent les accidentés en fin de matinée. Ils étaient en assez bonne forme et disaient ne pas souffrir de leur fracture. De commun accord, les parents avaient décidé de ne pas aborder la grossesse de leur belle-fille. Ils ne savaient rien et étaient bien décidés à rester sur cette ligne. C'était à Rindra et à son mari d'entamer la discussion s'ils le souhaitaient. Ils appréciaient de se retrouver ensemble, même si le lieu aurait pu être plus convivial. Ils échangèrent peu de mots. L'essentiel se situait ailleurs. La présence des parents rassurait, et le fils les remercia avec humour en leur déclarant qu'il ne pensait pas avoir pour cadeau de Noël une aussi jolie chambre garnie.